Dans l'actualité des idées aujourd'hui, évasion fiscale, la fête est-elle finie? On en parle avec notre partenaire du magazine Society, Emmanuel Andréani, qui a coordonné le dossier central de ce nouveau numéro, numéro du mois de juin du magazine, consacré à l'évasion fiscale. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et à sa une, costard cravate, lunettes rondes, cheveux gris, l'homme qui valait 300 milliards, c'est lui, notre invité Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique. On l'appelle le monsieur fiscalité de l'institution, on le surnomme aussi, ça c'est la presse américaine, le magazine Forbes, The Face of the Tax, le visage de l'impôt, bonjour.
Bonjour.
Et c'est pas si mal parce que c'est vrai que c'est un monde, un secteur un peu en panne d'incarnation. Vous lui donnez de la voix aujourd'hui et vous vous activez aussi en coulisses pour faire que les choses changent. Si le montant de l'évasion fiscale, Pascal Saint-Amand, est difficile à chiffrer, cet argent représente pour les États assurément une manne à ne plus négligé. À combien, quand même, évaluez-vous aujourd'hui le manque à gagner ?
Alors, on ne sait pas. C'est des centaines de milliards au niveau mondial, assurément. Il y a plusieurs sources. Il y a l'évasion, fraude fiscale de type « je vais cacher mes actifs dans un paradis fiscal utilisant le secret bancaire ». Et là, on a du mal à évaluer, mais on sait d'ores et déjà qu'il y a plusieurs centaines de milliards à recouvrer. Et puis, il y a l'évasion fiscale au sens de planification fiscale, au sens de « je joue avec les lois, je reste dans la légalité, mais je réduis ma facture fiscale des entreprises ». Et là, on est sur des centaines de milliards. Le chiffrage précis, on l'a pas précisément parce que c'est soit secret, soit ça échappe aux règles et donc il est difficile de chiffrer, mais c'est des montants très élevés et si ces impôts étaient recouvrés, naturellement, les autres, c'est-à-dire les Français moyens en France ou les classes moyennes dans les autres pays, paieraient moins d'impôts.
Aujourd'hui, juin 2019, est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui pratiquent fraude ou optimisation fiscale, les gars, la fête est finie ?
Sur l'utilisation du secret bancaire, oui. Ou alors si on veut continuer, il faut passer par des circuits criminels, c'est plus la même histoire. Sur l'évasion fiscale des entreprises, c'est en train de se finir. Donc on est dans les dernières mesures du bal.
Dernière mesure du bal. Alors comment en est-on arrivé là ? C'est vrai que cette question de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, de l'optimisation est longtemps restée en sommeil avec un sentiment d'impuissance aussi de la part notamment des États pour agir et récupérer cette manne. Quand est-ce que le coffre-fort de l'évasion fiscale a commencé pour vous à se fissurer ? Quelles sont un peu les grandes dates de cette bataille ?
Il y a une grande date qui est la crise financière de 2008. La crise financière, donc septembre 2008, l'effondrement de Lehman Brothers, la banque américaine, a abouti à une prise de conscience des politiques. Il fallait enfin mettre en place, moi, ce que j'appellerais une régulation fiscale de la globalisation. Pendant des décennies, on a eu de la globalisation qui n'était pas régulée et les États prétendant être souverains d'un point de vue fiscal, chacun fait ce qu'il veut, eh bien, en réalité, ça a donné un levier très important aux petites économies ouvertes, c'est-à-dire aux paradis fiscaux. Et on a laissé faire parce qu'il y avait de la croissance, parce que le monde se globalisait, se financiarisait et la crise financière, ça a été en quelque sorte le réveil de tout le monde et les politiques notamment dans le G20, ont décidé enfin de traiter le sujet. Ça fait une dizaine d'années qu'on s'y attache et je crois qu'aujourd'hui, les résultats commencent à arriver.
Et c'est à peu près à ce moment-là que l'OCDE, l'organisation pour laquelle vous travaillez, est mandatée par les pays du G20 pour s'occuper de ces questions de fiscalité.
Ce qui s'est passé, c'est que le G20, qui se réunit pour la première fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement le 15 novembre 2008, dit il faut traiter ces questions. On ne peut pas sauver les banques en mettant des milliers de milliards d'euros pour les sauver et en même temps sauver des banques qui aident les contribuables à ne pas payer les impôts dont on a besoin pour sauver les banques. Donc on voit le raisonnement circulaire assez rapide et donc ils sont tournés vers la seule organisation qui travaillait sur ces sujets-là, qui était l'OCDE. Et à partir de là, on a eu une dynamique assez intéressante où le G20 nous mandatait et il nous mandatait aussi parce qu'on lui demandait de nous mandater et c'est comme ça qu'on a pu faire avancer les choses à la fois sur le volet du secret bancaire et sur le volet de l'évasion des entreprises multinationales.
Une question d'Emmanuel Andréani du magazine Society qui vous a donc mis ce mois-ci à sa une avec ce titre « Mon fisc, ma bataille ».
Le secret bancaire est le premier sujet que vous avez décidé d'attaquer. Est-ce que, donc ça fait maintenant 10 ans puisque ça a commencé en 2009, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu où ça en est aujourd'hui Et est-ce qu'il est encore possible, en gros, de cacher son argent dans un pays comme la Suisse ou n'importe quel autre paradis fiscal ?
Alors, avant 2008, il y a un certain nombre de pays qui ont du secret bancaire. C'est-à-dire que l'on peut aller abriter son argent sans aucun problème en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, à Hong Kong, au Caïman, à Jersey, à Guernsey, à Panama, et je pourrais en citer une quarantaine comme ça. Et puis, ce que l'on a fait, c'est en deux temps mettre fin à ce secret bancaire. Le secret bancaire, c'est si je cache mon argent en Suisse, la Suisse ne dira jamais rien à la France. C'est impossible juridiquement. Le banquier suisse irait en prison s'il donne de l'information au gouvernement suisse. Et donc, on est sur une impossibilité totale. Donc, ce que l'on a fait, c'est un premier temps, ça a été de dire il faut accepter de répondre à des demandes d'information. Si la France a des doutes sur une personne en particulier, elle doit pouvoir formuler une demande et la Suisse sera obligée de répondre. Ça, c'est en 2009 que la Suisse craque et dit, c'est le 13 mars 2009, c'est un vendredi 13 qui a porté malheur à la Suisse et à quelques autres, et ils disent, on acceptera d'échanger des renseignements. Et il y a une deuxième couche qui est arrivée, et on a utilisé en fait le scandale de l'affaire Cahuzac, 2012-2013 en France, mais aussi les leaks de HSBC, ces fuites dans la presse sur les fichiers d'HSBC, pour dire au G20, il faut aller un cran plus loin. Le cran plus loin, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'échange automatique de renseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un compte bancaire en Suisse, le banquier suisse va collecter l'information sur le solde du compte bancaire, il y a combien sur ce compte, sur quelles sont les transactions sur ce compte, il va formater ces informations selon un standard qu'on a établi et qui est mondial, il va le donner au gouvernement suisse qui annuellement va le communiquer au gouvernement français. Et comme ça, la France a reçu près de 5 millions de comptes bancaires sur ces citoyens qui ont des comptes bancaires à l'étranger le 30 septembre dernier. Au niveau du monde, on est à près de 50 millions de comptes bancaires qui ont été échangés. Alors certains étaient déclarés dans le pays de résidence. Je pouvais avoir un compte bancaire parce que j'ai vécu dans un autre pays, je l'ai gardé, je l'ai déclaré en France. Mais naturellement, une bonne partie n'était pas déclarée. Et donc les administrations fiscales vont pouvoir les trouver. Donc c'est ça qui s'est passé et qui fait que, comme tous les pays du monde, ou en tout cas toutes les places financières, tous les pays développés, tous les pays importants font ce standard, appliquent ce standard, eh bien il est impossible de se cacher, sauf naturellement, si je suis trafiquant de drogue, trafiquant d'êtres humains ou je ne sais quoi, à utiliser des circuits criminels. Donc je vais voir un banquier criminel, un avocat criminel, et là je mets mon argent en réel danger. Et c'est toute la différence. Hier, un bon notable parisien ou de province pouvait cacher son argent, aller à l'hôtel du Lac à Genève, serrer la main d'un banquier, c'était très chic, c'était très safe. Et puis aujourd'hui, il faut passer par des circuits totalement parallèles et criminels. Donc ça fait une différence, je crois, assez grande, qui fait que on est assez confiant que ça s'applique.
Juste, c'est la transparence, donc contre l'opacité. Ça, tous les pays jouent le jeu, les États-Unis y compris.
Alors, tous les pays jouent le jeu aujourd'hui, sauf, naturellement, les États-Unis qui font seulement une partie du travail. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est les États-Unis qui ont fait avancer les choses. En 2011, ils ont voté une législation qu'on appelle FATCA, qui est une législation qui oblige toutes les banques du monde à leur donner les informations. Donc, ils ont pris l'initiative et ils ont montré l'exemple. Et ensuite, les Européens nous ont demandé de multilatéraliser cet exercice. Mais les États-Unis ne font pas encore de l'échange automatique avec les autres pays, même s'ils répondent à la demande. Donc ce n'est pas le paradis fiscal ultime.
Emmanuel Andréani.
Vous avez dit que la France a reçu 5 millions d'informations sur des comptes bancaires. Ça veut dire que maintenant, en gros, le fisc français, les services juridiques ou policiers, je ne sais pas, français, vont pouvoir enquêter sur ces comptes, savoir si, en gros, parmi ces comptes, il y a des gens qui ne les ont pas déclarés, qui sont donc des fraudeurs fiscaux, c'est ça?
Absolument, c'est ça. Et alors, ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, c'est que dans la perspective de la mise en place de l'échange automatique de renseignements, eh bien, les contribuables, en France et ailleurs, ont été invités à régulariser leur situation. On a collecté, une vingtaine de pays, 95 milliards d'euros d'impôts de gens qui avaient des comptes bancaires à l'étranger et qui sont venus spontanément les déclarer avant d'être trouvés. Et donc aujourd'hui, avec ces millions d'informations qui ont circulé, les administrations vont vérifier si tous ceux qui avaient un compte bancaire non déclaré l'ont bien déclaré, et s'ils ne l'ont pas déclaré, ils ont d'ores et déjà reçu en fait des lettres du fisc les invitant à donner des explications sur pourquoi il y a des comptes qui n'avaient pas été déclarés.
Voilà, on a lu récemment dans la presse une baisse de 34% des dépôts bancaires dans les paradis fiscaux en 10 ans, déposés par des ménages ou des entreprises hein, qui voulaient échapper au fisc. Cette baisse très importante est évaluée à plus de 550 milliards de dollars, voir un peu ce que ça représente. Mais juste pour comprendre, vous mettez la Suisse dans les paradis fiscaux, ex-paradis fiscaux ou pas? Non, parce qu'il faut, je pense qu'il faut
Mais moi, je suis diplomate, donc je fasse très attention. D'accord. Si je mets un label paradis fiscal sur un pays qui est membre, ça va être très compliqué. Non, mais ce qui compte, c'est que la Suisse avait un secret bancaire très strict. Voilà. Et en ce sens-là, certains peuvent considérer que c'était un paradis fiscal. C'est plus le cas. Les banquiers suisses ont joué le jeu. Quand j'y allais il y a 10 ans, je me faisais insulter. Maintenant, on a de bonnes réunions constructives parce qu'ils veulent que, d'ailleurs, ils veulent que tout le monde applique. Et c'est les premiers à dénoncer les États-Unis pour pas faire complètement de la réciprocité.
Alors, la Suisse, en tout cas, n'est pas dans l'Union européenne. Quand on regarde la liste des paradis fiscaux établis par l'Union européenne, il reste une douzaine de pays aujourd'hui. Puis ça nous amène quand même assez loin, à Trinité et Tobago, les Émirats arabes unis, les Fidji, les îles Marshall, Oman, etc. etc. Et comment ça se passe du côté de l'Europe, les Pays-Bas, le Luxembourg? C'est une question qui a été posée à Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Il réagissait notamment aux propos de Raphaël Glucksmann, qui était alors candidat place publique pour le scrutin européen et qui estimait qu'il restait des paradis fiscaux en Europe.
En matière européenne, il faut être extrêmement précis, comme dans toute matière d'ailleurs. Un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est un pays qui ne respecte pas les règles de bonne gouvernance internationale. On ne peut pas dire ça des pays de l'Union européenne. Non, mais... Et vous voyez, ça c'est typiquement là où je ne rejoins pas un Glucksmann. C'est-à-dire que dénoncer, dénoter, sans préciser et sans avoir une conception de ce qu'est l'Union européenne, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais il y a des questions plus fondamentales. Il faudra par exemple que Raphaël Glucksmann dise dans quel groupe il va siéger. Est-ce qu'il est au Parti Socialiste Européen ou pas?
C'est très... Il y a beaucoup de feu aussi du côté
normal. Très important.
Voilà, il est depuis devenu député européen, Raphaël Glucksmann, qui surfait à ce moment-là sur un sentiment bien commun et partagé. L'argent existe, disait-il sur son fil Twitter, il dort dans les paradis fiscaux, un vrai pognon de dingue qu'il faut ramener dans le budget commun. Le Luxembourg, les Pays-Bas, pour vous, comment vous les classez, Pascal Saint-Amand?
Moi, je les classe dans des pays qui ont étaient des plateformes pour faciliter ce qu'on appelle la planification fiscale agressive des entreprises. C'est quoi? C'est je suis une multinationale, je vais essayer de localiser mes profits dans un pays qui les taxe pas et donc limiter ma charge fiscale dans les pays qui taxent et où j'ai des activités. Et donc c'est vrai que en Europe, l'Irlande, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et puis hors Union européenne mais sur le territoire européen quand même la Suisse sont des petites économies ouvertes qui ont facilité ça, c'est même leur business model. Et c'est logique, vous êtes une petite économie ouverte, vous avez besoin d'investissement et vous n'avez pas un marché très large. Donc vous utilisez les armes fiscales parce qu'il n'y a pas de régulation fiscale de la mondialisation. Et donc je pense que mettre des labels paradis fiscal, pas paradis fiscal, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est faire évoluer ces pays pour que ils facilitent moins cette évasion fiscale. Et c'est ce qui se passe au cours des dernières années. Alors ils sont très nerveux et c'est logique. Si vous êtes l'Irlande, vous êtes périphérique, vous êtes en danger de crever de faim, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps en Irlande, et donc vous utilisez cette arme, mais ces pays, au cours des dernières années, ont vraiment participé à nos travaux. Alors évidemment, c'est pas forcément ceux qui sont les leaders de ces travaux, c'est pas ceux qui facilitent la dynamique, mais ils s'y sont pas opposés, parce qu'ils sont conscients que si on régule pas la globalisation, ce qui va se passer, c'est comme dans le niveau du commerce, c'est une guerre fiscale. Et une guerre fiscale, qui en est la première victime? Les petites économies ouvertes. Et donc c'est ça tout le jeu qu'il faut mettre en place. Alors il y a les labels qu'on peut mettre, mais c'est plus punitif. Dire un pays c'est un paradis fiscal, on le fait aussi. On a une liste qu'on a présentée à Fukuoka, à la réunion des ministres des Finances du G20 la semaine dernière. Mais c'est vraiment ceux qui ne respectent aucune règle du jeu. Donc vous avez mentionné Trinidad et Tobago, Vanuatu. C'est plus que des petites juridictions sans grande importance, je dirais, qui menacent pas l'équilibre global des choses. Quant aux autres, il faut qu'ils avancent. Les pays que j'ai mentionné en Europe, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, ils ont plus de secret bancaire, donc on est plus sur des mécanismes de facilitation de la planification fiscale agressive. C'est-à-dire que j'offre une plateforme pour être utilisée. Est-ce que c'est un comportement de paradis fiscal? Oui, des ONG le diraient. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut lutter contre eux. Ces instruments qui rendent légale l'évasion fiscale.
Voilà, parce que ce sont des pratiques encore perçues comme légales, ont facilité, vous employez le passé, alors ce type de jeu ou de pratique est loin d'avoir disparu aujourd'hui. On peut se rendre, si vous le voulez bien, encore avec un extrait d'un reportage de Comme un bruit qui court, l'émission de France Inter, à Malte ou à Chypre, en passant par Cannes, où se tenait un salon professionnel, salon de l'immobilier de luxe. Obtenir une nationalité chypriote, maltaise, contre une fiscalité plus avantageuse, il semble que ce soit encore possible.
Je m'appelle Daria Batamirova, représentante du groupe Alia. C'est une holding spécialisée dans le développement d'immobilier de luxe. Notre projet phare porte sur l'immigration à Limassol, à Chypre, et nous ciblons les hauts revenus et leurs familles.
À partir de combien ?
À partir de 10 millions d'euros.
C'est raisonnable.
2 million euros, they should pay.
Donc, il faut payer 2 millions d'euros pour la propriété. Et c'est tout.
Also to show where
il y a juste à prouver l'origine des fonds.
Pour que ça soit de l'argent propre.
Of course, everything is.
Oui, bien sûr, tout est propre et conforme à la loi.
Et là, mais du coup, il y a en plus, ils payent moins d'impôts.
Yes, they pay taxes, but they are much lower comparing to what.
Oui, ils payent beaucoup moins d'impôts qu'en Europe, qu'en Russie ou même aux USA.
Et d'autant qu'il n'y a pas d'obligation de rester toute l'année pour avoir la nationalité. Si on investit, on peut rester que 90 jours, je crois, à Chypre. Et ça suffit pour avoir le passeport.
60 days.
60 jours.
60 jours, ouais, encore moins.
Mm-hmm. Ouais.
En fait, c'est juste comme un investissement, cette nationalité. C'est-à-dire que, pourvu qu'on ait les capitaux, le monde n'a effectivement plus de frontières. L'idéal presque gauchiste, le monde sans frontières où les hommes circulent, c'est en fait chez les vrais capitalistes qu'on le trouve.
Pascal Saint-Amand, quand vous entendez cet exemple donné, rien, ça ne vous étonne pas?
Ça m'étonne pas, et on a déjà pris des actions pour lutter contre ce type de phénomène. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté par l'investissement ou la résidence par l'investissement. Vous payez un chèque à un pays comme Chypre, comme Malte, mais hélas aussi comme le Portugal ou un pays des Caraïbes, Saint-Kitts et Nevis, et vous récupérez un passeport et parfois même mieux qu'un passeport, un certificat de résidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fiscalement, vous êtes censé être résident sur ce territoire. Ce qui vous permet par exemple de montrer au banquier suisse un certificat de résidence de Saint-Kitts et Nevis, et le banquier suisse qui est obligé maintenant de collecter l'information va l'envoyer à Saint-Kitts et Nevis, qui va dire « Ah ben cette personne est bien résidente de chez moi, mais c'est pas taxable, il n'y a pas d'impôt à Saint-Kitts et Nevis, et donc je jette l'information. » Et la France qui aurait dû recevoir l'information ne l'aurait pas. Donc on a été sensibilisé à ce type de schéma qui par ailleurs peuvent, me semble-t-il, poser des problèmes assez sérieux d'éthique, de morale, quoi. Est-ce que c'est bien juste d'avoir ce type de mécanisme? Et donc, nous, on l'a neutralisé d'un point de vue fiscal. Je pense qu'il faudrait le neutraliser d'un autre point de vue fiscal. Ça veut dire quoi, neutraliser d'un point de vue fiscal? On peut plus utiliser ces certificats de résidence ou de citoyenneté à des fins fiscales. On a obligé les banquiers suisses, si un client montre un passeport de Saint-Kitts et Nevis, qui est sur notre liste des pays qui publient ce type de passeport, eh bien le banquier suisse va devoir faire des investigations supplémentaires. Mais ça pose des tas d'autres problèmes. Et d'ailleurs, à l'OCDE, on est en train d'y travailler sur les questions d'immigration, sur les questions de lutte contre la corruption, sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc on a une approche globale et on va sortir assez prochainement des papiers sur ces schémas qui sont scandaleux. Saint-Kitts et Nevis, vous avez, je crois, 50 000 habitants. Ils ont d'ores et déjà vendu 15 000 passeports. Et il y a une autre dimension qui est qu'ils vendent ces passeports à des Iraniens, à des Chinois, à des gens qui veulent les utiliser pour d'autres raisons. Et donc ça pose des problèmes pour les habitants de Saint-Kitts eux-mêmes qui ne peuvent plus aller librement au Canada parce que maintenant ils doivent avoir un visa parce que le Canada a identifié que c'était une sorte de route pour que les Iraniens qui ne peuvent pas accéder au Canada sans visa détournent ces règles-là. Donc oui, c'est un vrai problème.
Là vous dites nous, à l'OCDE, on entend bien qu'il faudrait aussi uniformiser ou homogénéiser ces pratiques aussi au sein de l'Union européenne et que l'Union européenne peut avoir un rôle à jouer. Qui sont aujourd'hui les acteurs de cette lutte contre l'évasion ou la planification fiscale? On dit souvent qu'un État seul ne peut pas grand-chose. Qui fixe l'agenda aujourd'hui de cette bataille, de cette lutte?
C'est une très bonne question et la réponse est un peu paradoxale. Ça devrait être l'Union européenne qui devrait être le leader de tout ça, au moins sur le territoire de l'Union européenne. Et en fait, c'est nous à l'OCDE qui est pas la plus connue des organisations internationales, qui avons fait avancer les choses. Pourquoi? Bah parce qu'on a une approche globale et on a tous les pays qui participent. On a Singapour, on a les Caraïbes, on a les États-Unis et les autres. Si vous faites quelque chose dans l'Union européenne seul, par exemple la fin du secret bancaire, bah les Luxembourgeois, à juste titre, vont vous dire « Attendez, si on met fin au secret bancaire dans l'Union européenne, l'argent va partir en Suisse ». Donc il faut la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et donc il faut une approche globale. En anglais, on dit « level the playing field », c'est niveler le terrain de jeu, faire en sorte que tout le monde participe à ces règles du jeu. Et donc, paradoxalement, le leadership, il a été à l'OCDE parce qu'on avait un moteur politique, une dynamique politique, qui était celle du G20. 80% de l'économie mondiale, des grands pays qui tous taxent plutôt fortement et qui ont dit il faut mettre fin au secret bancaire. Donc vous avez une dynamique politique du G20, deux, l'OCDE qui a été capable de s'adapter et de mettre en place un mécanisme qui inclut tous les pays, et trois, l'Union européenne qui a suivi. L'Union européenne n'en a jamais autant fait au cours des 10 dernières années. Ils ont appliqué toutes les règles qu'on a développées, ils ont même pris cette initiative de liste qui met un peu plus de pression sur des pays, mais la difficulté de l'Union européenne, c'est que vous avez cette question de si tout le monde ne respecte pas les règles du jeu, pourquoi nous en Europe on le ferait? Puis en second lieu, l'unanimité. Les décisions dans l'Union européenne en matière fiscale ne peuvent être prises qu'à l'unanimité, et il n'y a aucune raison que les Irlandais mettent ainsi la branche sur laquelle ils sont assis. Donc vous avez un problème des pays très hétérogènes dans l'Union européenne, qui n'ont pas des intérêts communs, et un droit de veto à chacun de ces pays, ce qui fait qu'il est très difficile d'avancer, sauf lorsqu'on a eu des avancées au niveau mondial.
France Culture, il est 13h17 avec notre invité Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire l'OCDE, et en compagnie aussi d'Emmanuel Andréani, journaliste au magazine Society, qui a consacré son dossier central ce mois-ci sur cette quinzaine, hein, on va même dire, à l'évasion fiscale.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Vous avez évoqué le cas de l'Irlande. On peut effectivement revenir aussi sur ce qui s'est passé encore récemment entre Google et la justice française dans le collimateur de Bercy pour fraude fiscale, ce qui nous amène au GAFA et à la possibilité pour un État d'agir seul ou pour l'Union de tenter de trouver un consensus pour une action commune pour taxer ces géants du numérique. Quelles limites montre aujourd'hui, Pascal Saint-Amand, le système actuel de fiscalité mondiale face aux grandes entreprises technologiques comme Google, comme Facebook ou autre?
Alors, la taxation des entreprises, d'un point de vue international, elle est compliquée et elle repose sur des règles qui datent de 1928. Donc, autant dire qu'elles sont plus adaptées. Donc, comment est-ce que les pays se partagent les droits d'imposer? Comment est-ce que les profits des entreprises sont partagés entre les différents pays? On a des règles extrêmement compliquées et peu adaptées à une économie numérisée, au fait que vous n'avez plus besoin de présence physique pour faire du business dans un pays. Et donc, ces règles ont abouti à ce que les entreprises aient pu, au cours des 30 dernières années, planifier très agressivement, mettre leurs profits dans des paradis fiscaux. Vous aviez, avant la réforme fiscale américaine de 2017, vous aviez 3000 milliards de dollars de profits cumulés des boîtes américaines aux Bermudes et aux Caïmans. 3000 milliards de dollars. Donc c'est absolument massif. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a dit au G20, c'était en 2012, de nous donner un mandat pour changer les règles. Et on a changé les règles, ce qui fait que le fait de mettre ses profits dans un paradis fiscal qui taxe rien, ça c'est fini. Néanmoins, on n'a pas réglé le problème de la capacité des entreprises à mettre pas mal de profits dans des pays où il se passe pas grand-chose, même s'ils sont taxés à un minimum. Et puis en second lieu, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire la taxation d'entreprises qui sont très présentes commercialement, mais qui ne sont pas présentes physiquement sur un territoire. Et c'est le gros chantier qui est devant nous, qui est la priorité française du G7. Il y aura une réunion des ministres des Finances du G7 en juillet à Chantilly, et la priorité du G20. On en a discuté à Fukuoka la semaine dernière avec les ministres des Finances du G20. Et donc c'est un gros chantier qui est devant nous et qui va devoir aboutir à réviser les règles telles qu'elles avaient été élaborées il y a un siècle.
Pascal Saint-Amand veut faire payer Google, Facebook, Starbucks, Emmanuel Andréani, une question.
De quelle façon on peut envisager des règles qui permettent de récupérer tous ces milliards d'euros? Enfin, quelles règles, quelle est l'architecture qu'on pourrait imaginer? Vous êtes en train de travailler dessus. Est-ce que vous pourriez donner des pistes de réflexion pour, en gros, comprendre de quelle façon de nouvelles règles fiscales permettraient de taxer Google et les autres?
Alors, la première chose à faire, c'est établir des nouvelles règles qui permettent de taxer une entreprise même lorsqu'elle n'est pas présente physiquement. C'est trouver un nexus. Qu'est-ce qui permet de déclencher un droit de taxer pour la France? Prenons Netflix. Netflix a zéro employé en France. Ils font pas mal de business en France. Je ne sais pas s'ils font du profit ou pas, mais en tout cas, en admettant qu'ils fassent du profit en France, il faudrait qu'ils puissent être taxables en France. Ils ne sont pas présents physiquement. Donc, qu'est-ce qui déclenche le droit de la France d'imposer? Un nouveau nexus, un seuil de vente, par exemple. Ça, c'est le premier volet.
Ce que vous appelez la présence numérique aussi.
La présence numérique, physique, absolument. On peut le dire comme ça. Et le second volet, c'est combien de profits on attribue à la France. Aujourd'hui, les règles, qu'on appelle le principe de pleine concurrence dans le jargon fiscal, ces règles, elles aboutissent à ce que le profit d'une entreprise, ses profits vont dans le pays de résidence de l'entreprise, donc les États-Unis pour Netflix, là où la société est incorporée, ou là où la propriété intellectuelle a été mise. Et on sait bien que la propriété intellectuelle, c'est assez facile à déplacer. On peut facilement la mettre des États-Unis en Irlande, par exemple, par des voies contractuelles. Donc, une fois qu'on a déterminé le nexus, il faut s'assurer que le pays de marché, là où vous avez les utilisateurs, là où vous avez les consommateurs, récupère davantage de droits d'imposer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les pays en voie de développement, ou l'Inde, ou la Chine, réclament depuis 30 ans. Et pas seulement pour l'économie numérique. De façon intéressante, les Indiens disent, quand vous avez Louis Vuitton pour parler des Français, ou Rolls-Royce pour parler des Anglais, ou Siemens pour parler des Allemands qui font beaucoup de business en Inde, ben, l'essentiel du profit revient en Allemagne, ou dans un pays intermédiaire, parce que ces entreprises sont européennes, et les Indiens disent, on n'a pas assez de droits d'imposer à la source. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les Européens, et les Américains, les Européens disent, vous faites du business chez nous, on n'en taxe pas assez. Et donc la façon de répondre à cette difficulté, c'est de donner plus de droits d'imposer aux pays de marché et le faire de façon plus simple. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une armée d'avocats fiscalistes qui vont faire jouer le principe de pleine concurrence, faire des transactions plus ou moins artificielles, c'est dire on va prendre le profit mondial et on va nous louer une partie via une formule, un pourcentage X% aux pays de marché. Donc ça simplifierait le système, ça donnerait plus de droits d'imposer aux pays de marché, y compris à l'Europe qui est un pays de marché numérique, en quelque sorte. Et on espère que les pays du G20 et l'ensemble des pays de nos travaux, j'ai 129 pays membres sur le groupe qui s'occupe de ces sujets, puissent se mettre d'accord. C'est compliqué, parce qu'il y a des gagnants et des perdants. C'est ce qu'on essaye de faire d'ici la fin de l'année.
J'ai 129 pays membres, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, on a établi en fait.
Vous avez dit j'ai.
Oui, j'ai parce que le G20 nous a demandé quand on a produit les travaux en 2015 d'être plus inclusif, ce qui est normal. Et donc les pays en voie de développement disaient on veut être à la table. Si on n'est pas à la table, on est sur le menu. Hein. C'était le grand slogan à Addis Abeba des ONG. Et ben venez à la table. Donc il faut gérer 129 pays membres sur un pied d'égalité qui ont tous la possibilité de dire non.
Mais alors là encore toutes ces grandes entreprises du numérique, Airbnb, Instagram, Amazon, Facebook et les autres, la plupart sont américaines. Est-ce que les tractations, les négociations avec les États-Unis suivent leur cours ?
Alors ça, c'est très intéressant et très paradoxal. Les États-Unis d'Obama avaient dit au reste du monde « Désolé, mais on ne fera rien et on n'en reparlera pas avant 2020 ». Ce qui a conduit naturellement les pays européens à dire « Il faut faire des choses nous-mêmes tout de suite ». Donc une taxe sur les services numériques. En Europe, ça n'a pas marché. En France, ça a marché. La France est leader sur ce volet. L'Italie, l'Espagne, donc des pays ont bougé. Et le grand paradoxe, c'est que l'administration Trump, qui n'est pas connue pour être favorable au multilatéralisme, cette administration dit, vous voulez traiter la question ? Absolument, il faut le faire, faisons-le. Alors, pourquoi ce changement ? C'est que les États-Unis, entre-temps, ont fait leur réforme fiscale. Et leur réforme fiscale les conduit, je fais un raccourci, mais les conduit à penser que les pays de marché doivent récupérer davantage de droits d'imposer. Ce qui correspond à la demande française ou européenne de « on veut taxer davantage les GAFA en Europe ». Donc les États-Unis disent « banco, faisons ça, mais on le fait pour tout le monde ». Et donc là, on a une dynamique positive qui conduit les entreprises américaines qui me détestaient cordialement quand on faisait les travaux sur, ça s'appelait BEPS, c'était des travaux pour lutter contre l'érosion des bases fiscales et les transferts de bénéfices entre 2012 et 2015. Mais aujourd'hui, les entreprises américaines viennent nous voir avec des propositions concrètes qui permettraient de taxer les GAFA en Europe, et pas seulement les GAFA, les autres entreprises, et d'avoir une solution globale. Donc on a aujourd'hui une dynamique positive, des pays européens très offensifs, la France qui préside le G7 aussi, et des Américains qui sont prêts à négocier. Donc les conditions pour un accord sont réunies. Maintenant, les intérêts sont un peu contradictoires, compliqués, et je ne sais pas si on obtiendra un accord.
Mais on a aussi toujours des multinationales ou des grandes entreprises du numérique, des géants technologiques qui ont toujours une bonne idée, voire une longueur d'avance. Cette semaine, Facebook a annoncé la création d'une crypto-monnaie, Libra, qui rentrerait en circulation l'année prochaine. Extrait d'un sujet diffusé sur BFM Business.
Est-ce qu'on va un jour payer non plus en euros, non plus en dollars, mais en Libra, c'est ça, c'est le nom de la crypto-monnaie que Facebook va détailler. On parle de quoi ?
On est là quand même avec ce Libra face à la première monnaie qui se voudrait une monnaie mondiale émise par une multinationale. Ça ne s'est jamais vu.
Pourquoi est-ce que Facebook veut créer sa propre monnaie ?
C'est toute la question. Avoir une monnaie, ça n'a de sens que si on a une activité marchande. Facebook n'a pas d'activité marchande. 96% ou 98% du chiffre d'affaires vient de la publicité. Alors on peut imaginer qu'effectivement, il y a plein d'hypothèses. Alors on peut imaginer qu'il y a la volonté de créer des services marchands au travers à la fois de sa propre galaxie Facebook, mais aussi de tous ses partenaires. Il y en a une trentaine. On peut citer eBay, on peut citer Uber, par exemple. Aussi permettre de créer des transferts de Libra entre particuliers, transferts d'argent, voire devenir une plateforme de paiement. Et Dieu sait s'il y a 30 ans, on n'aurait jamais imaginé que les banquiers puissent se faire détrôner sur ce marché des paiements. Et aujourd'hui, c'est clairement le cas. Ils sont en train de perdre la bataille des paiements. Et après être devenu une plateforme de paiement, on peut imaginer que le projet va jusqu'à vouloir créer une banque qui, pourquoi pas, émettrait à ce moment-là des crédits en Libra. Et puis sinon, on peut aller jusqu'au bout, de l'histoire. Allez, voyons le rêve impérial de Mark Zuckerberg. Véritablement, créer un nouveau monde parallèle. Il se dit, il y a Donald Trump, il a 350 millions d'Américains et il domine le monde avec le dollar. Bah, il y a Mark Zuckerberg avec 2 milliards 300 millions de personnes. Pourquoi est-ce que je pourrais pas dominer le monde avec ma monnaie?
Mais il a raison, Nicolas Dose. Jusqu'où ira-t-on et quand s'arrêtera-t-on? Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui, des possibilités de mettre des barrières une fois encore? Parce que là, c'est la première fois que une grande entreprise comme Facebook va battre monnaie, créer aussi son propre système. Tout ça, ça va se faire hors de contrôle des États, des grands organismes, institutions comme la vôtre, Pascal Saint-Amand.
Alors moi je suis pas trop inquiet d'un point de vue fiscal parce que il s'agit essentiellement là de réglementation bancaire et du rôle des banques centrales qui à mon avis ont de quoi être inquiètes. Je sais qu'elles y travaillent et on a une vraie question de est-ce qu'on peut réguler ce type de monnaie globale avec des approches purement nationales. La réponse est non, d'où la nécessité de coopération. D'un point de vue fiscal, le seul danger qu'on a, c'est que c'est comme avec les bitcoins, comme avec ces crypto-monnaies, c'est que vous avez des échanges qui se font monétaires et on ne sait pas qui se cache derrière. Or, la meilleure façon de frauder, c'est de se cacher derrière une société offshore, une société aux îles Vierges britanniques, je mentionne les îles Vierges britanniques parce que vous avez 400 000 sociétés incorporées pour un tout petit territoire. Aujourd'hui, les îles Vierges britanniques sont obligées, grâce à nos travaux, de dévoiler qui se cache derrière leur société. Si vous créez une sorte de Bitcoin ou de Libra ou de nouvelle monnaie et on ne sait pas, parce que les transactions se font de façon cryptée sur le net, on ne sait pas qui se cache derrière, vous avez un risque de recréer du secret bancaire. Donc c'est ce sujet-là qu'on regarde de près. Mais une fois de plus, sur le Libra, la question c'est est-ce que les États sont équipés pour réguler ce type d'émission monétaire et puis comment le système bancaire mondial va résister à ce type de désintermédiation. C'est une question assez fondamentale pour l'ensemble des États.
Il nous reste 30 secondes, la question de fin, Emmanuel Andréani.
Qu'est-ce que risque aujourd'hui un État qui ne se plierait pas aux règles, aux nouvelles contraintes que vous êtes en train de, sur lesquelles vous êtes en train d'aboutir, et notamment sur le secret bancaire, mais aussi pour les entreprises? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un État devienne hors la loi, tout simplement?
Alors, hors la loi, les États sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, mais quand on blackliste un pays au G20 et que des mesures de rétorsion sont prises et que tous les investisseurs partent du pays, le pays l'arrête. C'est ce qui s'est passé avec le Panama en 2016. Panama Papers, on a blacklisté le Panama. Le Panama a hésité pendant 3 mois. Ils nous ont appelés en août 2016 pour dire, OK, c'est bon, comment est-ce qu'on négocie? Parce qu'on peut pas tenir, on va se transformer en État purement criminel, ce qui est absolument pas possible. Donc ça, c'est le premier risque. Et puis, le second risque pour les entreprises, naturellement, c'est que si elles ne respectent pas les règles du jeu, bah elles seront elles aussi ou bien blacklistées ou bien feront face à des contrôles fiscaux très durs. Mais le principal risque dans tout ça, c'est que les pays ne se mettent pas d'accord, que chacun prenne des mesures unilatérales et qu'on ait une sorte de chaos comme ce qui s'annonce d'un point de vue commercial. Et ça, il faut essayer de l'éviter. Mais pour ça, il faut que tous les pays se mettent d'accord et c'est un travail un peu compliqué que d'essayer d'y arriver.
Voilà, et pour ça, il faut arrêter de faire la fête. La fête est finie, évasion fiscale. C'est le titre donc de ce dossier consacré à cette question avec vous par le magazine Society. Merci Emmanuel Andréani, merci à vous beaucoup Pascal Saint-Amand d'être passé autour de cette grande table. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission à la réalisation aujourd'hui. C'était Marie Placet avec Souad Boukorsa.